Les colloques du Collège de France.
Alors, chacun a son texte de prédilection. Les goûts ne se discutent pas. Le mien est le Digeste. Donc, je commence par une citation du Digeste qui dit « Toute définition en droit civil est dangereuse. Il est rare, en effet, qu'elle ne puisse être renversée. » Cela me semble s'appliquer parfaitement au paratexte. Pour Gérard Genette, le paratexte désigne l'ensemble des éléments qui entourent une œuvre et en médiatise la réception des seuils entre le texte et le lecteur. Il distingue le péritexte, ce sont des éléments internes, titre, préface, note, et l'épitexte, ce sont des éléments externes, selon la formule célèbre. Le paratexte est égal au péritexte plus l'épitexte. Alors, je voudrais encore rappeler la leçon inaugurale d'Antoine Compagnon qui nous a transportés au cœur du laboratoire intellectuel et en conduit à cette élaboration et à son précurseur, la périgraphie. Alors, d'abord, j'en profite pour souligner qu'en réalité, toutes les communications, si je ne me trompe pas, se sont concentrées sur le péritexte. Même si nous avons presque tous employé le terme plus général de paratexte. Alors, je répète, pour Genette, le péritexte oriente la lecture et participe au projet éditorial sous la responsabilité de l'auteur ou de l'éditeur. Mais ce modèle fondé sur le livre imprimé s'applique mal aux manuscrits anciens. C'est un modèle qui doit être repensé si l'on veut l'appliquer au monde des manuscrits de l'Antiquité du Moyen-Âge. C'est le seul point sur lequel il me semble qu'il y ait unanimité dans notre colloque. Je ne vois pas d'autres éléments en commun. Car il est beaucoup plus difficile de parvenir à un accord sur le fond. Je pense... Alors, donc c'est mon idée d'historien du droit, un peu, je suis un épitexte par rapport à ce domaine d'étude. Je pense que cela tient fondamentalement à une tension, voire à une concurrence, entre d'un côté une approche centrée sur le paratexte, qui constitue nécessairement une approche spécifique et sélective, quelle qu'en soit la définition, et l'autre part, une approche globale qui caractérise la bibliologie, par exemple, qui s'intéresse aux livres dans toutes ses dimensions, sa fabrication, sa diffusion, sa conservation, en tant qu'un objet matériel, par exemple sa forme, sa reliure, mais aussi à ses usages, notamment à travers l'histoire et la sociologie de la lecture. Donc nous avons une polarité entre une approche spécifique et une approche globale. Lorsqu'on envisage la possibilité d'une approche globale, d'autant plus qu'il me semble que notre époque est l'époque des approches globales. Lorsqu'on envisage la possibilité d'une approche globale, pourquoi, on pourrait se demander, isoler un seul aspect, celui du paratexte? C'est de là qu'il me semble vient toute la difficulté. C'est pourquoi on rencontre parfois, et peut-être on a aussi dans ces deux journées rencontré ici une définition ou des approches très larges du paratexte qui propose d'y inclure non seulement les éléments verbaux mais aussi tout un ensemble de phénomènes matériels liés au travail du copiste. Donc le paratexte dans cette perspective ne se limite pas au titre ou aux préfaces, il englobe par exemple la forme, la taille du support, la mise en page, la réglure, disposition des colonnes, division du texte, les marques de possession, les gloses rajoutées par les possesseurs, la signature des cahiers, tout élément. Donc c'est une conception élargie qui intègre pleinement la dimension matérielle, mais il y a un risque, il y a le risque que cette approche finisse pour se confondre avec l'approche, disons, bibliologique en général. Donc, pour éviter cette, disons, effacement à la fin de l'idée même de paratexte, parce que si on adopte une conception très générale, on finit par effacer l'idée même de paratexte, on essaye de trouver une définition un peu plus restreinte. Mais c'est là que les difficultés commencent. Et il me semble, non pas pour résoudre les difficultés, mais seulement pour les penser, il me semble qu'il est utile peut-être de distinguer deux axes, celui de la diachronie et celui de la synchronie. Alors, sur le plan diachronique, on doit distinguer, faire une distinction entre l'œuvre, disons, l'original et ses témoins. Et cette distinction, disons, diachronique comporte aussi la question de l'autorialité. Une question qui, par ailleurs, se complique considérablement dès lors qu'on déplace l'attention de l'auteur vers le rôle du scribe. Donc, ce n'est pas pour résoudre les difficultés, c'est seulement pour les, disons, lister. Donc, si on commence à penser la question du paratexte sur l'axe de la diachronie, on aborde, il me semble, la question de l'autorialité. Mais l'autorialité, disons, avec tous ces couches. Sur les plans synchroniques, la question est à nouveau différente, car face à un manuscrit donné, donc on ne pense pas à la chaîne de la transmission, mais on est en face d'un manuscrit donné, considéré en lui-même, comment établir la distinction entre ce qui relève du texte et ce qui relève du paratexte? Alors, il est évident, et donc il faut l'admettre si on souhaite continuer à utiliser ce mot, que le terme de paratexte implique une certaine idée de texte. Donc on ne peut pas parler de paratexte si on n'accepte pas qu'il existe quand même un texte. Et de façon simple, on pourrait dire qu'un paratexte, cela a été déjà dit plusieurs fois, est un contenu qui dépend d'un autre contenu. Le paratexte, c'est un contenu qui dépend d'un autre contenu. Mais encore une fois, on l'a vu ce matin encore, les relations entre ce qui est primaire et ce qui est secondaire constituent en elles-mêmes un problème d'interprétation. Et j'arrive au mot qui me semble le plus important, d'interprétation. Car, on nous l'a rappelé ce matin, ce n'est pas le simple fait qu'un texte soit disposé autour d'un autre texte qui en fait un paratexte. Donc il s'agit d'une question d'interprétation beaucoup plus fine. Dans ce travail d'interprétation, peut-être que cette notion de seuil demeure féconde car elle pourrait permettre de comprendre ces éléments comme des dispositifs de médiation entre le texte et le lecteur et de se faire orienter dans ce travail d'interprétation qui me semble essentiel par un principe. Donc le paratexte devrait toujours avoir cet objectif de fonctionner comme un intermédiaire. Mais ma proposition, et je conclue rapidement, n'est pas celle d'enfermer le paratexte dans une définition trop stricte. Donc j'ai commencé par cette citation du Digeste et je veux m'y tenir. Ce principe, toute définition est dangereuse. Il me semble qu'au contraire, les difficultés mêmes de définition doivent être envisagées comme des questions. doivent être envisagées comme des questions, comme des invitations que chaque chercheur doit se poser au moment où il aborde un manuscrit sous l'angle du paratexte. Cette pluralité de critères doit être utilisée, me semble-t-il, comme autant d'angles d'enquête. Pour le dire de façon un peu plus, disons, poussée, il me semble que le paratexte n'est pas un objet d'étude. Il s'agit d'une grille d'interrogation. Je pense que le problème dépend du fait qu'il y a une sorte d'ontologie du paratexte et qu'on ne considère pas que le paratexte est d'abord une grille d'interprétation. C'est un concept qui, dès lors qu'il a été nommé, d'une certaine façon, il a pris corps grâce au nom qu'on lui a donné, nous aide à ne pas perdre de vue certains aspects du livre antique ou du Moyen Âge. Je sais que cela peut vous sembler peut-être qu'il s'agit d'une solution simpliste, mais il me semble que renverser le statut du paratexte d'objet à foyer des questionnements correspond mieux à sa nature épistémologique. En tout cas, je pense que cette réflexion mériterait d'être abordée dans le volume à venir. Pourquoi je le dis ? Parce que on reproche souvent, je trouve ça vraiment très absurde, on reproche souvent aux ouvrages collectifs leur hétérogénéité, l'absence d'une vision unifiée. On lit de revues en disant « alors les articles sont magnifiques, mais il n'y a pas une idée homogène ». C'est oublier que ces travaux, ces contributions dans des ouvrages collectifs sont le produit de chercheurs indépendants, porteurs de perspectives différentes, et que la recherche avance précisément à partir de cette diversité d'approches. Mais pour éviter, disons, ce genre de reproche, je me permets de suggérer qu'il serait intéressant que chacun des contributeurs indique pas tant sa définition générale de paratexte, mais plutôt la définition, la grille qu'il a mobilisée effectivement dans son travail. Et surtout, cela me semblerait très important, je le ferai pour ceux qui me concernent, en quoi le fait d'avoir adopté l'idée de paratexte l'a aidé à mettre en lumière tel ou tel aspect. J'ai parlé d'actes, parce que c'est le moment douloureux d'un colloque, mais il y aura, oui, des actes qui constitueront, comme l'a dit Francesca Barone, le volume inaugural de la collection Immagine, Exploring Pre-Modern Paratext, chez Breipols. Et vous allez recevoir l'énorme éditorial. La date limite de remise est fixée au 1er septembre 2026. Y aura-t-il d'autres colloques ? Il ne fait aucun doute qu'il existe encore de nombreux types de textes à explorer. Il me semble que ce premier colloque a surtout insisté sur la littérature technique, disons, donc il y a beaucoup d'autres domaines à explorer. Matière ne manque pas. Et pour revenir à un autre, disons, bon mot du digeste, faut se dire que la partie la plus importante de chaque chose est les commencements. Il me semble que c'est un très beau commencement. Mais cette décision de poursuivre ou pas les colloques appartient surtout à l'élan et à l'énergie de mes deux compagnons de route, Francesca Barone et Arnaud Perrault, que je remercie très sincèrement pour leur rôle déterminant dans la conception et la réussite de ce colloque. Qu'ils me permettent enfin, en leur nom et comme au mien, de vous adresser à toutes et à tous, intervenants, présidents de séance, nos plus vifs remerciements pour votre disponibilité et votre engagement extraordinaire. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.